L'information se poursuit, il est 18h au studio Kalangou, vous êtes en direct, c'est l'heure du journal en français présenté par Diallo Mariama Kenda. Bonsoir à tous et voici ce qui fera l'essentiel de l'actualité. Après les dépenses de la Tabaski célébrées mercredi 22 août, les parents d'élèves seront face aux dépenses de la rentrée scolaire qui s'annonce à grands pas. Dans ce journal, un salarié décline les perspectives. Les sinistrés de la semaine dernière de Bagada, région d'Agadez, sont toujours dans l'attente d'une aide de l'État ou de ses partenaires. Selon le secrétaire général de la commune rurale, les autorités locales ont transmis les doléances à cet effet. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis dans la partie magazine de cette édition, nous irons dans le département de Dakoro, région de Maradi, pour parler de l'accessibilité à l'eau potable à partir des installations forêts. Bienvenue, messieurs, dames. Après les deux jours fériés accordés aux travailleurs par l'administration pour jouir de la Tabaski, ce vendredi, 6 jours de reprise du service, nous avons fait le tour dans plusieurs administrations publiques pour vérifier si les agents étaient présents à leur poste. Voici notre constat.
Cette reprise, en effet, est différente à celle des années antérieures où les agents dans plusieurs administrations publiques ne se présentent pas à leur poste le lendemain de la fête. Ce matin, après avoir sillonné 4 ministères, un centre de santé intégré, CSI, une des mairies de la place, nous avons été surpris de constater la présence des agents à leur poste au niveau des différents services. En dépit du caractère du vendredi qui est une demi-journée, cela n'a pas eu un impact sur ce lendemain de fête. Lorsque nous avons essayé d'en savoir sur cette particularité, certains agents nous ont répondu que c'est un jour comme les autres et qu'ils ne font qu'accomplir leurs devoirs. Qu'est-ce qui a réellement motivé ce changement de mentalité? Est-ce réellement un changement de comportement? Le constat des lendemains des fêtes à venir nous le confirmera.
Après les dépenses de la fête de la Tabaski célébrée mercredi 22 août au Niger, les chefs de famille vont faire face à d'autres dépenses, notamment avec la rentrée scolaire qui s'annonce. Les parents d'élèves salariés payés par anticipation pour la Tabaski espèrent la prochaine paie dans les 45 prochains jours. En attendant, comment préparer sans argent la rentrée des classes? Réponse avec Meïda Adou, un parent d'élève interrogé par notre reporter Asmana China.
Quand on fait le cumul, ça fait 45 jours qu'il faut attendre le salaire maintenant. Et qu'il y a la rentrée qui s'annonce des enfants. Avant ça même, il y a la rentrée des étudiants et des lycéens. Donc vraiment, c'est des choses à gérer. C'est une bonne chose de percevoir les salaires avant la fin du mois. Surtout en pareille circonstance, qui dit la fête dit vraiment des dépenses. Mais je pense que c'est une routine pour les fonctionnaires nigériens. On va tenir, mais tout le monde sait que les fonctionnaires nigériens, c'est l'endettement. Donc c'est comme ça que les parents vont gérer. Mais nous pensons que bon, l'État peut-être à la longue voir ce qu'il faut faire par rapport aux fonctionnaires nigériens. Nous, ce que nous voulons même, il faut que l'État fasse des études par rapport même au salaire des fonctionnaires nigériens. Vraiment faire la part des choses. En réalité, en tant que musulmans, nous faisons trop de social. Ce qui fait que le salaire de foi, c'est juste vraiment, c'est pas du tout ça. Ce qui fait aussi que le fonctionnaire est toujours endetté.
Après la fête de la Tabaski, l'heure est à la collecte des peaux d'animaux immolés, des peaux rassemblées et traitées avant leur exportation. Suivons à ce sujet les explications de Hashimu Ali. Il est revendeur grossiste du Nigeria, venu spécialement à Niamey pour ce business. Il est au micro de Michel Dedji.
Nous venons du Nigeria pour acheter les peaux. Quand nous arrivons à les amener au Nigeria, là-bas, il y a ceux qui les achètent et les transportent vers l'Europe. Nous l'imbibons avec du sel pour que la peau ne dégage pas une mauvaise odeur et perde la caractéristique que l'on veut d'elle. Combien avez-vous acheté maintenant? Bien que cette année, il n'y a pas assez de peaux, comme l'année passée, pour l'instant, nous n'avons pas fait le compte pour dire voilà le nombre exact de peaux achetées. Néanmoins, au volume que vous voyez à l'instant, sa valeur producteur peut atteindre 10 000 naira. L'année passée, le prix d'achat de la peau était plus élevé par rapport à cette année. À combien vous achetez l'unité? Nous l'achetons à 400 francs, voire 500 francs CFA. Alors que l'année passée, nous l'achetons à 600 francs jusqu'à 750 francs CFA. En fait, vous savez, on confectionne divers produits artisanaux avec la peau. Par exemple, des chaussures, des sacs et même la confection des habits.
En ce vendredi, après la fête de mercredi et jeudi, l'on constate ça et là des tas de restes de charbon, de la cendre et parfois même des morceaux de bois à moitié brûlés ou des cornes de mouton sur différents axes de la capitale et à la devanture des habitations. Ce sont là les empreintes laissées par l'immolation et la grillade des moutons sacrifiés à la Tabaski, un décor bien connu par les Niaméens après chaque fête. À la ville de Niamey, où nous nous sommes rendus, le président de la délégation spéciale était indisponible pour réagir quant à son appel lancé avant la fête, demandant aux habitants de nettoyer les lieux après la fête. À Dabaga, région d'Agadez, les victimes des inondations de la semaine dernière espèrent l'aide de l'État ou de ses partenaires. Les autorités locales ont transmis les doléances à cet effet, a déclaré le secrétaire général de la commune rurale de Dabaga, Rissa Mohamed, joint ce matin au téléphone par Gungum Mandantani.
Les résultats sont transmis donc à la tutelle et aux partenaires qui sont dans la région d'Agadez. Et jusqu'ici, vraiment, rien n'est venu. Les populations savent que vraiment, ça, c'est des catastrophes naturelles qu'ils ont été victimes à plusieurs reprises 2009-2010. Celle de 2018, là, est pire que les autres.
En 2009-2010, est-ce que simultanément, il y a eu des appuis?
Effectivement, il y a eu des appuis de l'État et des partenaires. Et
cela n'a pas pris trop de temps?
Les partenaires et l'État sont en préparatif. On ne peut pas dire qu'il y a un retard.
Est-ce qu'au niveau de la mairie, elle-même, il n'y a pas eu un appui, modeste soit-il, pour ces populations sinistrées?
L'appui de la mairie, elle a abrité ces gens-là au niveau des écoles. Maintenant, on est en train de voir ce qu'on doit faire. En tout cas, dans les 10 jours d'après qui vient, on fera quelque chose.
C'était le secrétaire général de la commune rurale de Dabaga, Rissa Mohamed. Les migrants recasés au centre de transit de l'Organisation internationale pour la migration, OIM, à Agadez, ont manifesté lundi pour réclamer leur acheminement rapide vers leur pays d'origine. Lincoln Gandia, gestionnaire du dit centre qui héberge plus de 800 migrants, donne des précisions sur ce mouvement d'humeur au micro de Tarnan Fouda Ahmed.
Je ne dirais pas que c'est une manifestation pour dénoncer les conditions de vie. C'était une manifestation de 6 personnes qui ont commencé à déchaîner la foule, commencé à jeter des pierres de partout. Pourquoi? Parce que leurs départs ont été reportés en coordination avec chaque pays. C'est pas un pays qui est ciblé. Tous les pays représentés ici pour le départ vers leur pays d'origine après la fête des Tabaski. Pour les migrants, attendre une semaine, deux semaines, trois semaines, voire pour d'autres pays un mois, pour avoir un document pour voyager, pour eux c'est beaucoup, mais pour nous, c'est les procédures. Et c'est pas OIM qui établit les documents. C'est la responsabilité de leurs ambassades, c'est la responsabilité de leurs consuls. OIM n'a pas besoin de garder les migrants ici au centre. Parce que déjà, on est dans une ville, ça bronde déjà avec la communauté. La présence même des migrants dans la ville d'Agadez est agaçant, bien sûr, pour beaucoup d'autres.
L'opposant malien Soumaïla Cissé, officiellement battu à la présidentielle, a affirmé jeudi à Bamako ne pas reconnaître la réélection du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, qui de son côté l'a enjoint d'arrêter de se bercer d'illusions deux semaines après le scrutin. Soumaïla Cissé a par ailleurs lancé jeudi un nouvel appel à la mobilisation et à la constitution d'un large front pour la sauvegarde de la démocratie, invitant les Maliens à manifester pacifiquement et sans violence samedi à Bamako, dans les autres villes du Mali et au sein de la diaspora, nous apprend une dépêche de l'AFP tombée la nuit dernière. Pour le président Ibeka, il serait convenable et souhaitable qu'ici et maintenant, l'on prenne la main que j'ai tendue à mon jeune frère Soumaïla Cissé pour qu'il gère le réel et non des illusions, a-t-il déclaré jeudi depuis Nouakchott, où il a effectué un bref déplacement, le premier depuis sa réélection, selon les journalistes de l'AFP. Rencontre hier à Niamey entre leaders du Front patriotique et ceux du cadre de concertation et d'action citoyenne qui luttent contre certaines mesures de la loi de finances 2018. L'objectif est
temps de travailler en synergie. D'ores et déjà, le Front patriotique s'engage par la voix de son vice-président Ousmane Abdelmoumouni à mobiliser tous ses militants pour la manifestation du 9 septembre à l'initiative du cadre qui lutte contre certaines mesures contenues dans la loi de finances 2018.
Il ne s'agit plus de faire des coalitions, il ne s'agit plus de réfléchir en termes de structure, mais de communaliser nos efforts et nos intelligences pour lutter ensemble, mener des actions ensemble. Il y a l'engagement du Front patriotique à mobiliser l'ensemble de ses militants pour participer à la prochaine journée d'action citoyenne. Ça, c'est une première chose. Le 9 septembre, nous avons également convenu de continuer la réflexion pour faire un point sur les acquis sociaux, de mobiliser tous les Nigériens et toutes les Nigérienne susceptible d'influer sur le cours de notre histoire. Et nous pensons que ces combats à mener là sont suffisamment communs pour justifier des synergies. Les contradictions secondaires qui nous minaient auparavant, on doit les taire pour faire face à ces quelques personnes qui pensent faire ce qu'ils veulent de nous et du Niger.
Propos recueillis par Soumana Amadou. Un policier burkinabé a été tué dans la nuit de mercredi à jeudi au cours d'une attaque menée par des individus armés contre une patrouille et un commissariat de police de Solé, localité du nord du Burkina Faso, frontalière du Mali, selon un communiqué de la Direction générale de la police nationale diffusé jeudi et repris par l'AFP. Mardi, un douanier a été tué dans une attaque menée contre un poste de douane à Batié, localité du sud du Burkina Faso, frontalière de la Côte d'Ivoire et du Ghana. La partie magazine de ce journal à présent, le département de Dakoro, région de Maradi, compte des puits dont certains dépassent 100 mètres de profondeur. Le directeur départemental de l'hydraulique et de l'assainissement de ce département parle de l'accessibilité à l'eau potable à partir des installations forées, mais aussi de la couverture géographique. Saadou Chebou est au micro de Mokhtar Amadou.
La question des profondeurs, c'est d'abord relatif au contexte hydrogéologique de la zone. À peu près, on peut structurer ça en trois types de zones. On a les vallées, principalement la vallée du Goulouwenkawa, la vallée de la Traka et ses branches. Là, les profondeurs sont de l'ordre de 30 à 40 mètres, c'est relativement peu profond. Vous avez des zones où vous avez des puits qui tournent autour de 60 à 65 mètres aussi. Mais vous avez une zone où les puits ont des profondeurs entre 90 mètres. Il y a même des zones où les puits vont au-delà de 100 mètres. Donc la question des profondeurs, là, ça dépend de la zone où vous avez passé.
Peut-on parler d'accessibilité à une eau potable aux populations du Dakoro?
Accessibilité à une eau potable, là aussi, comme je l'ai dit, c'est relatif. Voyez-vous, on passe des OMD et aux ODD. On passe de la question de la couverture à la question d'accès. Sinon, si je vous fais les détails des types d'ouvrages qu'on a dans le département, on a à peu près 1086 puits cimentés, 158 forages équipés de pompes à motricité humaine dans le département et on a 461 robinets qui se trouvent au niveau des mini-réseaux. On a 14 autres robinets qui se trouvent au niveau des ouvrages qu'on appelle postes d'eau autonomes. Là où il n'y a pas de réseau, c'est des réservoirs avec des rampes. Et on a quelques stations de pompage postural où on a à ce niveau 27 robinets. Maintenant, si on revient sur la question d'accessibilité, on a des indicateurs au niveau du ministère de l'hydraulique sur lesquels on se base pour calculer la couverture, l'accès ou bien la question d'entretien de ces ouvrages. Quand vous prenez le taux de couverture géographique du département, il est de 77,10%. Comparé à celui de la région, il est à 80%. Donc si vous comparez le département à la région même, le taux est inférieur à celui général de la région. De même, quand vous comparez le taux d'accès théorique dont vous avez fait cas, celui du département est de 49,3%, alors qu'au niveau régional, on est à 51,7%. Maintenant, au niveau du taux des pannes des ouvrages, on a un taux de panne de 3,2%, alors qu'au niveau régional, si on prend, il est de 5,9%. Donc, si on parle en termes de comparaison des indicateurs, on peut dire que malgré qu'on a des indicateurs d'accès et de couverture qui sont bas, on entretient bien nos ouvrages relativement à la région parce qu'on a un taux de panne de 3,2% contre 5,9% au niveau régional.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Place à présent au Forum de la presse et c'est avec Alassane Kouzi Mahamadou.
Suivez les programmes du studio Kalangou partout dans le monde grâce à sa page Facebook.
La page Facebook du studio Kalangou.
J'aime et je partage.